Bien, Seigneur nous a parlé par son esprit ce matin afin de nous encourager et nous bénissons son nom pour sa présence parmi nous. Dans le livre de l'Exode, je vous invite à lire un texte au chapitre 15 et au verset 26. On peut lire même à partir de la moitié du verset 15. Chapitre 15, donc, la deuxième partie du verset 15. « Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Amen. Voilà, nous sommes là tout de suite après la sortie d'Égypte, n'est-ce pas? Le peuple d'Israël a été délivré de l'esclavage, il a franchi la mer Rouge et Dieu, dès le départ, se présente comme le Dieu de guérison. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il décline son identité en se révélant comme le Dieu qui guérit. C'est en hébreu Yahvé Rapha. Voilà. L'Éternel qui te guérit. Et cette vérité, elle est réaffirmée, par exemple, dans le psaume 103, c'est pas, je pense que vous aimez lire les psaumes et vous avez certainement lu ce texte du psaume 103 où David, puisque c'est lui qui a rédigé ce psaume, dit ceci, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui, l'Éternel, qui pardonne toutes tes iniquités, tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. Et nous voyons déjà dans l'Ancien Testament divers personnages expérimenter la puissance de guérison de notre Dieu. Par exemple, le roi Ézéchias, n'est-ce pas ? A expérimenté, entre autres, cette promesse. Vous lirez son histoire dans le chapitre 38 du livre d'Ésaïe. Ézéchias est fort malade, il est atteint d'un ulcère malin, une espèce de cancer qui ravage là son organisme. Et le prophète Ésaïe est délégué vers lui pour lui annoncer une certaine nouvelle, je ne sais pas s'il faut dire une bonne ou une nouvelle, mauvaise nouvelle, et tout de go, le prophète lui dit, donne tes ordres à ta maison, c'est-à-dire prépare ton testament, car tu vas mourir. Et pour qu'il ait bien compris, il ajoute, tu ne vivras plus. Et puis, il tourne les talons et il s'en va, n'est-ce pas? Et la Bible dit que le roi, couché sur son lit, tout roi qu'il était, s'est tourné du côté de la muraille, vous voyez, s'est détourné de ses courtisans, de son personnel, du palais. Et là, il a invoqué Dieu. Il a prié Dieu avec larmes en disant, « Seigneur, souviens-toi de moi. » Et alors que le prophète était encore dans la cour du palais royal, Seigneur lui dit, « Retourne et dis à mon serviteur, le roi Ézéchias, que je lui accorde une rallonge de 15 ans. » Et c'est ainsi qu'Ézéchias a été miraculeusement, magistralement, puissamment délivré de son mal par l'intervention de Dieu. Vous avez également, toujours dans l'Ancien Testament, eh bien, l'histoire de Naaman, le Syrien, dit un païen, non pas un membre du peuple d'Israël, mais un païen. Et dans la maison de ce général syrien, il y avait une petite fille, une servante qui était domestique de la femme de Naaman. Et cette fillette a dit, « Oh, si mon maître, si Naaman était auprès du prophète qui est dans mon pays là-bas, à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Et sur la parole de cet enfant, eh bien, cet homme a entrepris le voyage Et la grâce de Dieu s'est manifestée puisque Naaman, le lépreux, a été guéri. Alléluia. Guéri de sa lèpre. Dans le Nouveau Testament, bien sûr, il y a le ministère de guérison qu'a exercé le Seigneur Jésus. Jésus a prêché l'évangile, mais il s'est plu aussi à manifester la compassion divine au travers de toutes sortes de guérisons, de prodiges et de miracles. Et dans le livre des Actes des Apôtres, il nous est dit, chapitre 10, verset 38, que, n'est-ce pas, eh bien, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. La prédication des disciples de Christ, prédication du salut, était confirmée par des guérisons. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, au verset 19, il est dit qu'ils s'en allèrent prêcher partout et que le Seigneur confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et Jésus a promis, n'est-ce pas, que des guérisons en son nom s'opéreraient sur la personne des malades et que ces guérisons accompagneraient la prédication de l'évangile jusqu'à ce que vienne le temps où l'Église serait enlevée auprès du Seigneur. Nous connaissons, je pense, tous, ou du moins la plupart d'entre nous, ce texte de l'Évangile de Marc où le Seigneur dit à ses apôtres, avant de retourner dans la gloire, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et il ajoute, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et voyez-vous, l'histoire de l'Église de Christ au travers des siècles atteste que partout où la vraie foi en Jésus-Christ a été exercée, Dieu s'est plu à guérir les malades. Par exemple, à la fin du deuxième siècle, il y avait à Lyon, pas très loin de chez nous ça, hein, un évêque, un pasteur, si vous voulez, de la communauté chrétienne qui était fort nombreuse, composée de plusieurs milliers de membres à l'époque, Irénée, saint Irénée, et cet homme de Dieu, dans ses écrits, car on a encore ses écrits, dit que dans la communauté dont il était le responsable, le pasteur, eh bien, il y avait des gens même qui avaient été ressuscités d'entre les morts. Voilà ce qui se passait. Et tout au long de l'histoire, jusqu'à nos jours, eh bien, répétons-le, Dieu s'est plu à confirmer sa parole par des prodiges, des guérisons et des miracles. Alors, précisons quand même ceci. Même si nous parlons de guérison divine, qu'est-ce que c'est qu'une guérison divine? C'est une guérison qui s'accomplit sans le secours de la médecine, mais par la seule puissance de Dieu. Il s'agit donc de guérison miraculeuse. Même si nous affirmons ces choses en nous appuyant sur la parole, la Bible n'est certainement pas opposée à la pratique médicale. Elle ne condamne pas le fait d'avoir recours à ces lumières et nous rendons grâce à Dieu pour les bienfaits dont nous pouvons bénéficier par le biais de la médecine, n'est-ce pas? Jésus lui-même dira quelque part dans les évangiles, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. L'un des rédacteurs de l'évangile, Luc, était médecin de son état. Et l'apôtre Paul l'appelle le médecin bien-aimé. Et tout ça pour dire que le Seigneur n'est pas opposé à la pratique médicale, certainement pas, et nous en rendons grâce à Dieu. Les guérisons sont accomplies par la puissance divine, certes, et elles sont le résultat de l'œuvre de Christ en croix. Je bénis Dieu pour une louange que j'ai entendue ce matin, et je pense qu'il y avait là une inspiration divine, vous voyez, en harmonie avec le message que je vous apporte et qui fait référence à ces textes qui parlent de l'œuvre de Christ sur la croix en relation avec la guérison. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, tenez, nous pourrions lire ensemble ce texte, même si vous le connaissez pour beaucoup d'entre vous. Il est écrit ceci, et ces paroles sont toujours vraies. Ésaïe 53, verset 4 et verset 5. Ésaïe, chapitre 53, verset 4. « Cependant, dit le texte, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. N'est-ce pas? Voilà, ce texte a été rédigé environ sept siècles et demi, avant la venue de Jésus. Prophétiquement, voyez, eh bien, Ésaïe a annoncé les souffrances que le Christ subirait à la croix du calvaire. Voilà, il sera frappé, il sera humilié et il sera chargé de nos péchés. Mais en même temps qu'il s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé aussi de nos maladies. Alléluia, il s'en est chargé pour que nous en soyons déchargés. L'évangéliste Matthieu va faire référence à ce texte d'Ésaïe, n'est-ce pas ? Dans Matthieu chapitre 8, au verset 16, eh bien, relatant les faits prodigieux qui se déroulaient lors du ministère du Seigneur, voici ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 8 et le verset 16. Il est dit, n'est-ce pas, que Jésus, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, c'est le verset 16. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. L'apôtre Pierre, encore lui, fera référence à ce texte d'Ésaïe dans la première épître de Pierre au chapitre 2 et au verset 24. Voici ce que l'apôtre du Seigneur déclarera, bien sûr inspiré par le Saint-Esprit. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Lui, ça c'est le verset 23, qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Voyez-vous, dans l'œuvre de Christ à la croix, il y a le fait que Jésus s'est chargé de nos péchés pour nous offrir de la part de Dieu son Père le pardon, si tout au moins nous nous repentons et nous mettons notre foi en lui. Mais sur la croix du calvaire, il a pris à sa charge aussi toutes nos douleurs, nos misères, nos détresses, physiques ou morales, afin de nous communiquer de la part de Dieu, eh bien, la guérison dont nous pouvons les uns et les autres avoir besoin. Voilà ce que nous enseigne la parole de Dieu. Alors, de quelle manière pouvons-nous être guéris de nos maladies, de nos souffrances, de nos détresses physiques ou morales ? Par le moyen de la prière, faite bien sûr dans le nom de Jésus. L'apôtre Jacques dira dans son épître, chapitre 5, verset 13, « Quelqu'un est-il dans la souffrance ? Qu'il prie !» Amen. Quelqu'un est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Voilà, si au milieu de nous, ce matin, il y en a certainement des gens qui souffrent dans leur corps ou dans leur être intérieur. Vous avez votre première responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus, c'est de prier vous-même, que d'invoquer le Seigneur. Et votre prière a du poids, du prix, de la valeur aux yeux du Seigneur, parce que vous êtes ses enfants. Alléluia. Parce que vous êtes ses enfants. Il y a bien sûr la pratique de l'imposition des mains. Hein. Marc chapitre 16, verset 18, j'y ai fait référence il y a un instant, où eh bien, l'évangéliste Marc nous dit, voici les miracles, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Qu'est-ce que c'est que l'imposition des mains? Ça n'est pas un geste magique, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec la pratique des guérisseurs, parce que certains guérisseurs imposent aussi les mains. Mais ils se garderont bien, par ailleurs, de vous prêcher l'Évangile. D'ailleurs, je précise ceci, c'est que pour qu'un miracle, pour qu'une guérison soit d'origine divine, il faut que ce miracle accompagne la prédication de l'Évangile. S'il n'y a pas la prédication de l'Évangile, si le nom de Jésus n'est pas annoncé, si le salut n'est pas proclamé en même temps que la guérison, eh bien il y a tout lieu de se méfier et de penser qu'il y a là quelque chose de louche et qu'il faut absolument rejeter. Qu'est-ce que c'est que l'imposition des mains? Vous savez que Jésus, dans l'évangile de Matthieu, dira « Si deux s'accordent sur la terre pour demander quelque chose au Père en mon nom, leur sera accordé, n'est-ce pas ?» Et c'est ça, l'imposition des mains. On s'accorde. Le malade et celui qui prie pour le malade s'accordent, s'unissent dans la foi, dans une prière commune, afin d'invoquer la grâce de Dieu. Voyez, on peut prendre l'image de, je ne sais pas, tenez l'électricité, regardez ces lampes que vous avez au-dessus de votre tête. Comment est-il possible que la lumière vous parvienne? Eh bien, il y a tout d'abord, quelque part, là-bas, dans l'armoire électrique, il y a la source de la puissance, le compteur électrique. Il y a là la lampe qui est le récepteur de la puissance. Et puis, il y a quelque part, on ne le voit pas, mais c'est dans le plafond, n'est-ce pas? Eh bien, un moyen de transmission, voilà, un conducteur, hein, ce sont les fils électriques. Eh bien, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Voilà, la personne malade, la personne souffrante, c'est elle qui est le récepteur ou la réceptrice de la guérison. L'origine de la puissance miraculeuse, eh bien, c'est Dieu et personne d'autre, n'est-ce pas, hein? Et puis, celui qui prie, eh bien, il est le moyen par lequel Dieu va se plaire de manifester son pouvoir. Son pouvoir ainsi va se transmettre en son nom. Le nom de Jésus, alléluia. Il est encore un nom puissant. Et puis, il y a la pratique de l'onction d'huile. Dans l'évangile, l'épître de Jacques, au chapitre 5, au verset 14, il est bon de rappeler ces choses-là. Qu'est-ce qui est écrit? Jacques, chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Ce n'est pas un petit mal de gorge passager, hein, c'est quelque chose de sérieux. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. En loyant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente, notre traduction dit agissante du juste, a une grande efficacité. Voilà, bien sûr que ce n'est pas l'huile qui est magique. Non, l'huile, nous le savons, dans toute la parole de Dieu, c'est le symbole, c'est le signe de l'œuvre du Saint-Esprit. Et lorsque, eh bien, nous pratiquons l'onction d'huile en faveur de malades, nous sommes là en train de témoigner, comme pour dire, Seigneur, nous croyons que maintenant, par l'onction de ton esprit représentée par cette huile, tu communiques à ton enfant la guérison dont il peut avoir besoin. Et puis, il y a aussi le don des guérisons. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, au verset 7, nous avons toute la liste des dons spirituels, n'est-ce pas, de ces dons auxquels le Seigneur nous demande d'aspirer. Et parmi ces dons, chapitre 12, verset 7, eh bien, il est dit ceci, « Aura chacun la manifestation de l'Esprit donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit. C'est vrai que certains croyants, certains prédicateurs ont reçu de Dieu par son esprit cette capacité spéciale, don des guérisons. Ça ne signifie pas qu'ils vont guérir systématiquement tous les malades et vider les hôpitaux. Ça ne signifie pas qu'ils peuvent utiliser ce don comme bon leur semble et chaque fois qu'ils le voudraient. Non, ils n'en sont pas les propriétaires, mais ils en sont seulement les dépositaires. et Dieu dans sa grâce les utilise et les inspire, n'est-ce pas, pour la gloire de son nom. On a une démonstration de ce don de guérison dans le livre des Actes au chapitre 3. Voyez, Pierre et Jean montent au temple à l'heure de la prière. Voilà, il y a là à la porte du temple un boiteux, un infirme, qui mendie parce que le pauvre malheureux c'est son seul moyen de subsistance. Et voyant Pierre et Jean entrer dans le temple, bien il leur demande quelques piécettes. Et Pierre s'arrête avec son collègue Jean, il disant « Je n'ai ni argent ni or ». Ça commence mal, hein. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth, lève-toi et marche. Et remarquez ceci, c'est qu'il lui a même pas demandé son avis. Il l'a saisi par la main et il l'a fait lever. Et au moment, c'est pas, où il a accroché les mains du malade pour le faire lever, tout à coup, ses chevilles se sont raffermies et notre homme a été guéri sur le champ. Ça, c'est un don de guérison. Comme Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière et que vraisemblablement, ils y montaient tous les jours, il se peut, certainement, qu'ils étaient passés devant ce même malade des tas de fois. Qu'en pensez-vous? Mais ce jour-là, pourquoi pas avant, pourquoi pas après? Parce que Dieu est souverain. Ce jour-là, l'Esprit de Dieu a communiqué un don de guérison à Pierre en faveur de ce malade. Et l'homme a été guéri sur le champ. Voilà ce que c'est que l'expression d'un don de guérison. Tous ces moyens de guérison n'agissent pas, comment dire, automatiquement, de manière magique. Ils doivent être l'expression de la foi. C'est d'ailleurs là le grand principe, la foi. La foi. Dans les évangiles, on trouve souvent cette parole de Jésus qui, s'adressant à un malade qui le supplie d'intervenir en sa faveur, lui dira « qu'il te soit fait selon ta foi ». Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est s'attendre à Dieu. La foi, c'est croire que quelque chose de bon va se produire. La foi, c'est croire que je vais recevoir le miracle, la guérison dont j'ai besoin. Seigneur Jésus a traité de ce sujet de la foi dans l'évangile de Marc. N'est-ce pas? Nous allons lire ce texte au chapitre 11, au verset 22 et 23. Il dit ceci, Marc chapitre 11, et le verset 22 et 23, peut-être on peut l'afficher, oui, merci. Excusez-moi. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Écoutez ça. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, la guérison par exemple, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. L'incrédule dit, pour que je croie, il faut que je voie. Mais celui qui a la foi dit, parce que je crois, je vais voir. C'est un raisonnement totalement inverse. Les guérisons sont obtenues par une grâce de Dieu et certainement pas en vertu de nos mérites. La guérison, c'est l'expression de la compassion de Dieu. Souvent dans les évangiles, il est dit « Jésus fut ému de compassion ». Et tout de suite après, il y a le récit d'un miracle, vous voyez. Jésus n'était pas un faiseur de miracles, un thaumaturge qui voulait démontrer simplement son pouvoir. Non, en présence d'un malade, son cœur était bouleversé, ses entrailles étaient remuées, n'est-ce pas? Il y avait là l'expression de la compassion divine qui faisait en sorte que le malade puisse être guéri. Et puis c'est l'expression, oui, une démonstration de sa puissance. Il y a ça dans la guérison, la compassion, la bonté, la bienveillance, la miséricorde, l'amour de Dieu et la démonstration de sa puissance. Alors il y a une question qu'on peut se poser, que vous vous posez en écoutant ce que je vous raconte ce matin. Pourquoi n'y a-t-il pas davantage de guérisons miraculeuses parmi nous de nos jours? du moins dans notre pays, sans ignorer celles qui ont lieu. Parce qu'au milieu de nous, gloire à Dieu, alléluia, les frères et sœurs pourraient rendre témoignage que dans leur santé, ils ont été guéris dans telle occasion. Mais enfin, nous déplorons qu'il n'y ait pas plus de guérison, qu'il n'y ait pas un courant de délivrance comme on le voit dans les évangiles, comme les missionnaires qui vont en Afrique ou ailleurs nous en rendent témoignage. Plusieurs raisons à cela. Le péché. Le péché. C'est pour ça que dans ce que nous raconte l'apôtre Jacques à l'égard de l'onction d'huile, il dira « Confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. » N'est-ce pas ? Lorsqu'on demande l'onction d'huile, c'est quelque chose de sérieux. Si un jour ça vous arrive de demander l'onction d'huile, d'abord préparez-vous. Préparez-vous. Tenez-vous devant Dieu. Si vous êtes malade, et dites « Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» N'y aurait-il pas, peut-être, ça n'est peut-être pas le cas, mais ça peut l'être. N'y aurait-il pas dans ma vie quelque chose qui serait opposé à ta volonté ? Montre-le-moi. Il ne faut pas chercher à tout prix à se découvrir du poil aux œufs. Hein. Mais s'il y a quelque chose, l'Esprit du Seigneur va vous le révéler. Peut-être un ressentiment tenace, peut-être une affaire que vous n'avez pas réglée, peut-être quelque chose qui n'a pas été intègre dans votre comportement, etc., etc. Eh bien, confessez cela au Seigneur, et même confessez-le à ceux qui vont prier pour vous en pratiquant l'onction d'huile. Confessez donc, je n'invente pas, c'est écrit, vos péchés les uns aux autres. Et Dieu fait grâce, amen. Et lorsque l'obstacle, si obstacle il y a, du péché est enlevé, eh bien, la guérison peut avoir lieu. Parce que dans la première aux Corinthiens, chapitre 11, quand l'apôtre Paul traite justement de la Sainte Seine, il dit que si nous prenons le repas du Seigneur, si nous y participons avec désinvolture, de manière indigne, sans réaliser ce que cela représente, si étant en état de péché effectif, nous nous permettons de participer au repas du Seigneur. Ce n'est pas une bénédiction, c'est un jugement que nous prenons contre nous-mêmes. Et Paul dira, c'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et que même un grand nombre sont morts. Ces choses-là peuvent arriver. Tu coupes là, je vais dire quelque chose. J'ai vécu quelque chose.